m'a souhaité la bienvenue à Bernard. Vous avez entendu parler de lui ? Un petit peu, on a parlé de toi et de Chantal, oui. Hein ? Je vous ai parlé d'un témoignage qui m'avait bouleversé, c'était le témoignage de Chantal. Hein ? Ça vous dit quelque chose ? Oui ? Hein, cette lettre que j'ai relue des années après. Et voilà, Bernard, c'est son mari. Voilà. Sois bienvenu vraiment au milieu de nous. C'est un bonheur de te voir et de t'avoir ce matin. Aujourd'hui, culte témoignage. Témoignage de ce que le Seigneur fait. D'un encouragement du Seigneur. Hein. Donc c'est vraiment le but. Alors nous, notre cœur brûle vraiment de raconter ce qu'on a vécu un petit peu à réveiller l'amour, mais on veut pas avoir l'exclusivité non plus. Donc j'ai envie de permettre à quelqu'un d'autre de... Je crois qu'Annette dira quelques mots avec moi, je pense Véronique aussi, et Colette si elle veut aussi, Christophe, voilà, hein, si vous voulez. Hein. Nous revenons d'un rassemblement, réveille l'amour. Hein, donc... Est-ce que quelqu'un avait à cœur de dire aussi un encouragement? Un autre encouragement? Sinon, on démarre, hein, on démarre. Alors, on démarre, voilà. Encouragement, oui. Ah, Christophe! Allez, on t'encourage, Christophe. Allez, on l'applaudit, allez, voilà.
Voilà, c'est deux exemples d'encouragement que j'ai vu. Dont on m'a parlé et dont j'ai vu un message sur internet à propos de Portes Ouvertes qui s'occupe des églises persécutées. Donc d'abord en Australie, bon en Australie apparemment l'église n'est pas persécutée, mais il y a eu des énormes incendies récemment. Des incendies énormes quoi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se sont portés volontaires pour porter secours. Alors tout ce qui tourne autour, hein, les secours, il n'y a pas que prendre les blessés sur son dos, hein, il y a aussi l'accompagnement après. Et le gouvernement australien a montré en exemple les chrétiens, en disant que ces employés fonctionnaires ont pas été à la hauteur et que c'est les chrétiens qui ont vraiment été à la hauteur. Donc pour qu'un gouvernement reconnaisse des chrétiens comme étant des gens de valeur, dire ça au micro ou à la télé, je sais pas où exactement, mais voilà. Alors par contre en Chine, alors là c'est encore plus extraordinaire. Il y a eu un tremblement de terre il y a un an. On en a parlé encore récemment parce que c'était l'anniversaire de ce tremblement, si on peut souhaiter un anniversaire. C'est... Je ne sais plus. Et là, pareil, il y a des chrétiens qui se sont déplacés, qui sont venus un peu partout de Chine, et même du pays qui se trouve à 1000 km de Lieu-là. Alors, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, je ne sais pas si c'est Singapour ou autre chose, je ne sais plus. Enfin, il y a des chrétiens qui ont fait 1000 km pour venir secourir. Et là, oh surprise, les politiques locaux, on va dire les responsables locaux, mais aussi nationaux, ont dit que c'était les chrétiens qu'il fallait suivre. Et que... qu'il fallait suivre, en fait, que voilà, que l'exemple de tout ce qu'avaient fait les chrétiens dans ce lieu de tremblement de terre était important et que c'était eux qu'il fallait aller vers eux. Et que les églises... institutionnelles, les églises avec une croix dessus, etc. Elles étaient relativement bien vues par l'État, par le gouvernement chinois, parce que elles sont surveillées. Mais le gouvernement chinois avait très peur des églises de maison. Or là, ils ont l'air de dire que les églises de maison, c'est très bien, c'est là qu'il faut aller, quoi. Alors, assez surprenant. Mais... Merci. Surtout de la Chine.
Merci beaucoup. Le rayonnement, l'annonce de Jésus-Christ, c'était dit dans le Rassemblement Réveil l'amour, par l'amour, vraiment. Le rayonnement, par l'amour. Merci. Allez, on va démarrer avec Réveille l'amour. Comme ça, si on a d'autres après, n'hésitez pas. Alors, c'était vraiment une très grande bénédiction, hein, ce rassemblement. Plus qu'il y a 2 ans, pour mon compte, plus qu'il y a 4 ans. Hein, c'est la 3e fois que j'y vais et c'est le 4e rassemblement. Pourtant, l'avant-veille, c'est pour ça que j'ai envoyé un email demandant la prière pour couvrir, parce que l'avant-veille, j'étais dans un combat vraiment très fort. On m'a confié le message de lancement de ce rassemblement et j'arrivais pas au bout de ce message. J'avais le début, j'arrivais pas au bout. Et puis, je sais pas, j'étais animé de toutes sortes de sentiments de bizarres, un peu de lassitude. Voilà. Je vous préviens, vous vous apprêtez à être canal de bénédiction quelque part ou à recevoir une bénédiction, faut vous attendre au combat. Qu'est-ce que vous allez faire? Reculer? Et dire, bon allez, je recule, j'y vais pas. Je crois qu'il faut rester simple dans ces cas-là. C'est dire, moi, je me suis dit, bon, Seigneur, tu as voulu que j'y sois, c'est qu'il y a une bénédiction. Bon, voilà. Voilà, et ça m'a beaucoup aidé, à rester simple. Et la prière en langue m'a beaucoup aidé aussi, ce qui fait que la veille, délivrance. Ça y est, c'était terminé. Et je savais, j'avais le mandat du Seigneur. Et vraiment, depuis là jusqu'au bout, j'étais porté. Avec Annette, on a été porté. D'un bout à l'autre de ce rassemblement. On a commencé jeudi soir, où on s'est rendu à Ephata. Point de rendez-vous. Hein, ce rassemblement est organisé par la communauté Ephata et aussi par le renouveau diocésain de la région Nord. Alors l'accueil des catholiques, bon ça c'est formidable. Ça je vous assure que on a quelque chose à apprendre, hein, au niveau de l'accueil, surtout en tout cas de ces gens du renouveau. Moi j'ai été beaucoup touché par la consécration de l'équipe qui prépare un tel rassemblement. Vous vous rendez compte que nous, orateurs, on était logés à l'hôtel gratuitement, nourris, que tous les participants payaient leur hôtel, puisqu'ils voulaient être ensemble avec les orateurs. Tous les noyaux qui servaient payaient leur hôtel. Ils ont dormi quelques heures par nuit. Certains les derniers à partir, les premiers à se lever. Je vous assure que ce témoignage de consécration est bouleversant. Cet homme, ça m'a beaucoup touché. Alors, vendredi, premier jour, j'avais ce message de lancement, et puis le Saint-Esprit m'avait téléphoné il y a 10 jours, parce que c'était pas prévu, on m'a dit, si, vas-y, fais le message de lancement. Et dans la nuit qui a suivi, Saint-Esprit m'avait dit je devais parler de la croix. Vous savez, ce message que j'ai donné sur les 2 larrons. Et puis, avec une conclusion pour indiquer, avec 3 conclusions. Le thème de la première journée, c'était se laisser réconcilier. Et donc, première conclusion, se laisser réconcilier avec la vision de la puissance de la croix du Christ. À l'œuvre, là, avec ce bon larron qui est touché au dernier moment. Réconcilier avec l'appel à porter sa croix tous les jours. 3e conclusion, réconcilier avec la vision de la puissance d'une vie crucifiée. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chers amis, ce message a été accueilli, j'étais bouleversé. Je me suis dit merci, c'est vraiment ce qu'il fallait. C'était. Et d'ailleurs, tout au long du rassemblement, la croix était au centre. J'ai un prêtre qui m'a mis la main là, et dit Jean-Luc, c'était lumineux, merci. Un prêtre de Douai, à la gloire du Seigneur, je le dis, parce que c'est que la grâce, hein, parce que vraiment quel combat j'avais. Hein. Mais l'accueil de ces catholiques pour le message de la croix, j'étais bouleversé. Ça a commencé le premier jour, l'après-midi une table ronde, chose que j'aime pas du tout et beaucoup. Alors là, j'ai dit Seigneur, tu me portes, et puis je m'apportais tout simplement dans cette table ronde sur le renouveau. Je reviens sur ce prêtre qui m'avait remercié. On a parlé, on a échangé. Il m'a dit qu'il n'y a pas longtemps, dans une réunion, il a demandé la prière d'un pasteur évangélique. Waouh. J'ai discuté avec un autre prêtre du Renouveau qui m'a dit qu'il était invité dans une église à Saint-Lenoble pour prêcher le dimanche de Pentecôte. Waouh. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Waouh. Et quand j'ai vu ce prêtre embrasser un jeune d'une église évangélique qui était présent, dans les bras, des images comme ça, ça marque, ça reste. J'ai fait la connaissance avec Annette, Véronique aussi, qui l'ont entendu, Colette et Christophe, d'un homme vraiment habité par le Christ. Le père Daniel Ange. C'est un amoureux de Jésus, il était là avec sa croix. Un amoureux de Jésus, puis il a donné un enseignement le samedi matin à couper le souffle, tant il y avait de la profondeur dans la sagesse, sur la défense du projet de Dieu dans sa création de l'homme, de la femme. J'ai commandé le CD, j'en ferai des copies, vous écouterez ça. Magnifique. Magnifique. C'est lui qui a animé la soirée aussi de samedi. C'était très beau, j'en parlerai juste après. Juste pour dire que j'étais un moment en conversation avec un évêque des Ardennes sur la croix. Vous vous rendez compte? Je parlais avec un évêque sur la croix. Et il m'a dit, merci de prier pour moi, pour que j'ai plus de révélations de la croix. Un évêque. Et l'humilité de cet évêque. Ouais. L'humilité de cet évêque, c'est vrai que c'est celui qui est le plus ouvert peut-être, l'évêque des Ardennes. Hein. Il y avait d'autres évêques qui étaient présents, mais bon, on a senti aussi dans la table ronde que, ben oui, il portait résolument un regard quand même positif, malgré tout ce qu'on peut entendre hein, sur le renouveau. J'ai vu la beauté du Christ sur ce visage Daniel Ange, mais sur d'autres visages, et je l'ai vu sur l'Église. Vous savez, c'est une grâce du renouveau. C'est de voir la beauté de son Église et la beauté du Christ qui transparaît. Hop, je laisse la parole puisqu'on est dans le vendredi samedi. Annette, ce que tu as vécu. Véronique aussi, dites ce que vous avez sur le cœur et allez-y, spontanément. Après Colette, si tu veux. Hein, ouais.
C'est vrai que
j'ai
réveillé l'amour.
Vas-y, parle au micro comme ça.
Non,
peut-être pas Odette et Colette. Ouais.
Non, oui, réveille l'amour. C'est vrai que ça fait 6 ans, je crois, qu'ils font réveille l'amour. Oui, c'est vrai. Et vraiment, cette année, vraiment, Dieu a réveillé un amour en moi pour lui et en même temps pour les autres. Mais ce qui m'a vraiment frappée, moi, c'est vendredi après-midi, il y a eu un moment d'adoration. Ça m'est tombé dessus, mais. Voilà, ils ont dit on va adorer, alors moi je pensais, bon, ça va peut-être faire du bruit ou je sais pas quoi, mais j'ai vu des gens, des prêtres, à genoux, par terre, ils ont dit on va adorer un quart d'heure.
C'était 20 minutes
sur. Si c'est pas une demi-heure, mais c'était dans un silence, c'est vraiment, j'avais comme l'impression que l'esprit d'adoration tombait, descendait, et vous étiez obligés d'être à genoux, et d'avoir ce cœur qui adore, même si c'est en silence, mais. Avec cette croix, enfin, je sais pas comment dire, c'était très, très fort. Vraiment, ce jour-là, enfin, mon cœur adorait, vous savez, comme un verre qui se remplit, ça montait, et j'avais l'adoration, et c'est vrai qu'on voyait plus rien, et j'avais mon voisin, justement, ce jeune, là, de l'église évangélique, on était qu'à deux d'évangélique, qui me dit, qu'est-ce qui nous arrive? Je dis, c'est rien, on adore Jésus, voilà, on adorait Jésus, et j'ai vu vraiment, des prêtres, je vous dis, par terre, à genoux. Mais même moi, je me dis, mais c'est quoi ça? Enfin, je veux dire, mais d'une adoration, un esprit d'adoration qui venait. Et j'ai envie de garder ça, enfin, je sais pas comment dire, garder ça en moi, quoi. Et cet esprit d'adoration fait que j'ai envie d'aimer les gens. Il y a comme quelque chose qui sort, et que lundi, quand je suis rentrée, je dis, oh là là là, ça, je vais atterrir, là, attention, on va poser ses valises, il va atterrir avec les gamins qui arrivent. Aimer, je sais pas comment dire, les gens dans la rue, je sais pas, il y a quelque chose qui montait et qui me donnait envie d'aimer. Cette adoration m'a poussée à aimer Jésus. C'est vrai que là, j'ai dit ça y est, là, comme si j'avais compris que j'adorais pas finalement. Mais cette adoration qui vous prend, vous voyez Jésus, enfin je sais pas, cette adoration, ce que Jésus a fait pour moi à la croix, ce qui, voilà. Alors je voulais vous partager ça parce que c'était très très fort.
Donc moi, je voudrais vraiment vous inviter à écouter le CD de Daniel Ange, qui va dupliquer, parce que pour moi aussi, ça a été une révélation, une bénédiction. C'était vraiment quelque chose de très très fort. Et ça, je trouve que ça m'a redonné un peu le sentiment, des fois effacé, de dignité en tant qu'enfant de Dieu, et puis aussi de dignité en tant que femme. Donc je dis pas que les hommes doivent pas l'écouter, parce que eux aussi ils ont des choses merveilleuses à entendre sur eux. Mais alors pour les femmes, vraiment, là, pour une fois, on était vraiment valorisés, c'était super. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que ce même intervenant a commenté après la résurrection du Christ, il a commenté les actes de Thomas. Et il a dit que Thomas demande à voir les stigmates, en fait, du Christ. Et je sentais que Dieu voulait me dire quelque chose, mais je savais pas quoi. Et j'ai compris plus tard dans la semaine, et le père Daniel Ange, pourtant, nous avait mis sur la route, mais c'était un peu passé à côté. Et le Seigneur m'a montré pendant la semaine que Thomas, en fait, ce qu'il veut voir, c'est la preuve de l'amour absolu de Jésus. Il veut voir les trous aux mains, aux pieds. Et c'est seulement en voyant ces trous qu'il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ce que le Seigneur m'a montré pendant la semaine, c'est que tous les gens qui sont pas chrétiens, c'est pas en voyant les manifestations de puissance de Dieu qui vont le plus facilement de se convertir, mais c'est vraiment en voyant l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et là, ça a été mais vraiment comme une vague, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, hein. Vraiment une invitation à se laisser remplir par l'amour. Et franchement, j'étais bouleversée, j'étais au bord des larmes, j'étais pas la seule. Et on a vraiment senti que le Seigneur bénissait. Et comme disait Annette, qu'il venait nous remplir, hein. Qu'on était des vases creux, mais qu'il venait nous remplir. Et que dans nos cœurs, on n'allait pas avoir l'amour, un amour mortel, mais qu'il allait mettre l'amour qu'il a pour ses créatures, lui, dans nos cœurs à nous. Et que ça va faire témoignage. Et que les gens vont se convertir en voyant ça. Voilà.
Voilà, on a vu la beauté de l'Église dans la louange, dans la danse, dans l'adoration, dans la demande de l'Esprit-Saint, dans la fraternité, toute simple aussi. Le samedi soir, le père Daniel Ange a conduit une veillée, extraordinaire aussi, où on a suivi le cheminement des disciples, la journée qui a suivi la résurrection. Donc c'était la lecture ponctuée de temps d'adoration, de silence, la lecture de cette Emmaüs, là, Luc 24, je crois. Depuis les disciples d'Emmaüs, jusque les retrouvailles entre Jésus et ses disciples à la chambre haute. Au moment où il leur a dit, voilà, recevez l'Esprit Saint. Et après, il y a eu cette demande de l'Esprit Saint. Moi, ce qui m'a frappé là, c'est les disciples d'Emmaüs, où Père Daniel Ange a souligné que leur cœur brûlait quand Jésus commentait les Écritures. Leur cœur brûlait. Parce qu'il commençait à comprendre. Et c'était ma prière pour moi, que mon cœur brûle pour lui. Et après, on était amenés, ceux qui étaient devant, à imposer les mains. Et pour tout le monde, j'ai prié comme ça. Hein, j'ai prié, j'ai demandé que leur cœur brûle. Voilà, comme les disciples d'Emmaüs. Et vous savez, j'étais exaucé dans la nuit de dimanche à lundi, où vraiment j'étais réveillé à 2h30 du matin, et c'est comme des vagues d'amour qui venaient sur moi, comme une ivresse de bonheur. Et tout au long de la nuit, et un peu comme Annette le lendemain matin, je n'allais pas au travail. Non, j'allais pas au travail. Non, c'était pas le lendemain matin, je vous confesse, c'était le lendemain après-midi. J'avais la demi-journée pour récupérer. J'allais aimer les gens. Vous comprenez la différence? Aimer de l'amour du Christ, bien sûr. Demain, tu vas au travail? Non, tu vas aimer les gens. De l'amour du Christ. C'était tout simple, tout bête, toute révélation, toute simple, mais c'était très fort, vraiment. J'avais mes entrailles qui brûlaient cette nuit-là. Ivre de bonheur. C'est pas tout, hein. Tout ce qu'on a vécu, on n'est qu'à la moitié. On est à la moitié. Le dimanche matin, avec Annette, on nous avait demandé d'apporter notre témoignage personnel aux enfants. Et un peu plus grand, ouais. Mais il y avait un moment 100 enfants réunis, mais nous, il y en avait peut-être 50, 60, c'est déjà pas mal, avec des jeunes préados qui encadraient aussi. Il m'avait téléphoné il y a 10 jours pour ça aussi, j'ai dit oui, après tout, Jésus aime les enfants, et il faut être prêt aussi pour les petits-enfants, Jésus les aime tant. Hein. Et celui qui nous a proposé de donner un témoignage, j'étais très, très inspiré, parce que donc, moi, j'ai raconté mon témoignage du petit enfant que j'étais. Vous savez, le petit enfant gay, dégourdi, qui est devenu un adolescent très timide suite à des événements dans ma vie où quelqu'un, dans le train, s'amusait toujours à me faire rougir, etc. Puis j'ai raconté d'autres événements. J'étais devenu un adolescent très timide, maladif. Mais ça m'a amené à la conversion. J'ai raconté ça. Pour dire que personne n'est trop nul, trop faible pour le Seigneur. Je l'étais, je ne m'aimais pas. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes, il veut vous utiliser. Tout le monde s'est mis à genoux pour demander à être utilisé par Jésus. Et deux enfants sont venus me voir après. Une petite fille, 11-12 ans. Elle m'a dit, oh, je me trouvais nul. Ouais. Ton témoignage m'a beaucoup aidé. Et après, elle a demandé la prière, accompagnée d'un responsable du groupe de prière. Parce qu'elle venait de découvrir, cette petite fille, que son père était en train de tromper sa maman. Et elle a fait dans la prière une démarche pour avancer vers le pardon. Bon, je savais, quand on est témoin de ça, c'est bouleversant. Bouleversant. Un autre garçon qui s'appelle Mathias, lui, c'est un peu plus âgé, 14-15 ans. Il est venu me voir tout de suite après lui, mon témoignage. Il m'a dit, Jean-Luc, ton témoignage, c'est le mien. C'est ce que je vis. Est-ce que je peux te voir dans la journée? Il est venu me voir en fin de rassemblement. Et on a prié ensemble. J'ai vérifié qu'il a bien fait ce pas vers Jésus. On a apporté tout ça parce qu'il m'a confessé que avant ce rassemblement, il avait des pensées suicidaires. Vous voyez la bonté du Seigneur, hein, pour toucher les enfants. J'ai eu l'occasion de prier avec un couple qui était en grosse difficulté ensemble depuis un an ou deux. Et j'ai vraiment prié avec eux et je les ai vus pleurant, se déclarant leur confiance, voulant repartir, disant que le rassemblement les remettait en route. Ouh, quand on est témoin de ça, vous comprenez pourquoi j'étais ivre de bonheur dans la nuit. Vous savez, quand on est témoin de l'action de Dieu, c'était magnifique, vraiment. Le dimanche après-midi, on a un message très puissant de Pierre-Marie Soubiran, qui est un ancien père blanc en Algérie, et maintenant il fait partie de la communauté des Béatitudes. Là aussi, j'ai regretté, je n'ai pas commandé la cassette, mais je vais le faire. Parce que c'était sur pourquoi s'épuise-t-on dans l'annonce de Jésus-Christ. Je vous assure que c'était excellent. Il a indiqué des... Et puis il a raconté des miracles qu'il a vécu en Algérie. Magnifique. Magnifique. Donc c'était beau. Vous savez, on était entre 500, 1200, jusqu'à 1200, des gens des paroisses. Il y avait des gens des paroisses du coin ici. J'ai reconnu des paroisses de Don, de Saint-Guin, d'Aubourdin. Des gens des paroisses, ce rassemblement, tous les gens des paroisses traditionnelles. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment un outil que le Seigneur utilise. Et nous nous rendons compte que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Des prêtres qui ont soif du Saint-Esprit, des prêtres qui ont envie de vivre, des prêtres qui ont envie de vivre la croix, et qui ont compris, et qui commencent à comprendre le mystère de la croix. Ah, si vous êtes avec vos carnets sur la doctrine et pour dire si tout est ok sur le plan doctrinal, non, vous allez peut-être trouver des petits trucs. Ah non, là je suis pas tout à fait bon, d'accord, mais bon, mais en tout cas, il y a un fruit. Il y a un fruit magnifique. Alors moi, j'étais scié de la confiance qu'ils me font, moi, petit pasteur d'une petite paroisse, un petit troupeau, qu'ils me font la confiance de me donner un message de lancement, puis de me donner en plus une parole d'envoi avec l'évêque des Ardennes. Là, je devais donner une parole. Je m'étais préparé, je me dis, ils vont peut-être demander une parole. Je priais le Seigneur, donne-moi une parole. Je vous la donner, la parole que j'ai reçue. Elle a percuté mon cœur tellement fort que quand elle m'est venue, elle m'est tombée dessus, j'ai pleuré systématiquement parce que je sentais vraiment que le Saint-Esprit mettait le réma, quoi, pour dire vraiment, c'est, oui, Jean-Luc, reçois cette parole et communique-le. Et cette parole, toute simple, c'est une parole que beaucoup reçoivent en d'autres endroits aussi. Ésaïe 60. Je vous laisse cette parole comme une parole d'envoi pour vous aussi, pour nous tous. D'accord? Ésaïe 60. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. La gloire de l'Éternel se lève sur toi, car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Qu'est-ce qu'il est question dans cette parole? Il est question de rayonnement. Le chrétien est appelé à rayonner. Et son rayonnement, c'est qu'on puisse voir le Christ sur le visage. Et par les signes, par les gestes, d'accord, d'amour. Hein. Il y a eu un message d'ailleurs sur l'annonce de Jésus-Christ. Quelqu'un dit l'annonce de Jésus-Christ par le rayonnement. Et qu'est-ce que dit cette parole? Vous savez, souvent, on va à un rassemblement, on va recevoir... Et puis, hop, après le rassemblement, ça y est, on descend de la montagne, c'est la vallée, et voilà. Et beaucoup de chrétiens, ça fait les montagnes russes. Et allez, prochain rassemblement. Et on passe d'un repos de l'esprit à un autre repos de l'esprit pour reprendre une parole de l'évêque magnifique. Moi, j'étais bouleversé par un évêque qui a fait une commission sur la bénédiction de ton roto, là. Et vraiment, il a fait un rapport, mais très positif. Il l'a pas critiqué du tout. Ça, je passe. Mais il a encouragé à la maturité. Il dit, il ne faut pas rejeter tout ce que le Saint-Esprit veut faire. Mais il faut être mûr. Il ne faut pas passer d'un repos d'une expérience émotionnelle à une autre expérience émotionnelle, non. Bon, bref, je reviens sur cette parole. Que dit cette parole? Elle dit que Dieu veut rayonner sur chacun et sur l'Église, mais que nous ne devons pas nous attendre à ce que ce rayonnement s'étiole. Mais nous devons nous attendre à ce que ce rayonnement augmente. Dieu a ce désir ardent, parce qu'il voit bien que l'ennemi se déchaîne. Il voit bien que l'ennemi fait tout ce qu'il peut. Les ténèbres couvrent la terre. On va vivre des temps difficiles et plus difficiles. Mais est-ce que vous croyez que Dieu va nous laisser comme ça, dans ces temps difficiles? Non. Il veut augmenter son rayonnement sur son Église. Est-ce que nous pouvons vivre dans cette assurance? Moi, j'ai compris que je devais le déclarer tous les jours, ça, depuis le rassemblement. Seigneur, je crois que mon rayonnement va augmenter. Je crois que le rayonnement de l'Église, peut-être c'est pas toute l'Église, mais sur la partie de l'Église qui voudra bien le croire. Comme tu me disais, Bernard, j'ai beaucoup reçu de la visite vraiment chez toi. Hein, vraiment, là, j'ai vu la beauté aussi. Hein. Tu vois, la beauté de l'Église, on ne voit pas seulement dans les rassemblements. On le voit aussi dans des petits contacts intimes. Hein. Et j'ai beaucoup reçu de ce que tu disais, que le Seigneur prépare l'Église pour être une épouse. Son épouse. D'accord? Belle. Belle. Sans rides. Dieu veut accroître notre rayonnement, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous vous y préparez? Est-ce qu'on s'y prépare? Et ce rayonnement, par l'amour du Christ qui coule de la croix, je le crois. qui coule de cette vie livrée, hein, qui coule de cette de ce cœur pur qui vient de la croix, de ce désir d'être reconnaissant par-dessus tout, d'être dépendant du Seigneur par-dessus tout. Ce rayonnement va augmenter. Les gens vont dire, lui, il a quelque chose, elle, elle a quelque chose que je n'ai pas. Je vois le Christ. Est-ce qu'on est prêt à se laisser remuer par cette parole? Est-ce qu'on est prêt à ne plus fixer nos yeux sur les difficultés seulement, sur nos faiblesses seulement? Est-ce qu'on est prêt à être comme Josué et Caleb, qui voyaient les signes, les grappes de raisin, les promesses de Dieu, et qui fixaient ses yeux sur ces signes, pas sur les problèmes, pas sur les difficultés, pas sur le peu de moyens? Le Seigneur nous donne des signes. Quand on a découvert vendredi soir que cette salle était inondée ici, suite à l'orage de jeudi, de l'eau boueuse, vous assure, on serait venu là ce matin, on aurait été embêté si on n'était pas venu depuis jeudi. On a nettoyé la boue, là, 4-5. Le jeûne et prière, c'était vendredi, un nettoyage raclette de la salle. On avait presque fini. On est allé dehors. Il y avait un magnifique arc-en-ciel. Demi-cercle magnifique au-dessus. Et au-dessus de la salle. On l'a vu à quelques-uns, Philippe l'a vu, Colette, je pense, l'a vu, Annette, on était quatre à l'avoir vu, et Christophe de loin, puisque Christophe était un peu plus loin. Bon, je crois que Dieu nous parle par cela, et a voulu nous dire, je suis le Dieu de l'Alliance, est-ce que vous croyez aux promesses faites sur cette église, sur cette région? Je suis le Dieu immuable, qui ne change pas. Et c'était beau parce qu'après, Colette, tu as prié vraiment pour que cette boue qui est partie symbolise un peu la boue qui part des vies. Et curieusement, le lendemain, c'était journée nettoyage à fond de la salle. Regardez bien, normalement, je dis bien normalement, il n'y a plus de toile d'araignée. Plus de toile d'araignée, le karcher a été mis sur la façade, on va mettre en peinture. La cuisine nettoyée à fond, rangée, spirituellement c'est important. Oui, j'en profite pour dire encore merci, Annette me dit, à tous ceux qui ont participé. Hein. Et c'est spirituel aussi. Pour moi, ça veut dire, le Seigneur, si on n'est pas négligent dans ce domaine, on est en train de ne pas être négligent par ailleurs, hein, d'accord? Si on est négligent dans ce domaine, on est négligent spirituellement aussi. Hein. Donc, ben oui, j'appelle que ça soit un temps de purification, de nettoyage intérieur, pour que ensuite on soit utilisé par le Seigneur aussi pour aider les autres à se nettoyer et enlever la boue. Voilà, lève-toi, sois éclairé, brille, car ta lumière paraît. Qu'on parte avec cette parole d'envoi. Colette.
La première, j'ai été seulement avec Christophe. On était à Réveil l'Amour seulement le samedi après-midi et le soir, donc pas le reste, on pouvait pas. Et en fait, le samedi après-midi, il y avait la table ronde avec les évêques. Et ils étaient 4-3, je crois, et puis ils se parlaient, et puis il y avait des questions parfois de la salle. Et moi, j'ai été marquée, parce qu'il y a un évêque qui a dit, au niveau de l'évangélisation, on ne sait plus trop comment faire, on ne sait pas quoi faire. Et il a eu l'idée de dire à des paroissiens, et si vous lisiez simplement avec des voisins l'évangile de Marc? Simplement, vous invitez des amis, vous vous mettez dans votre salon et vous lisez au fur et à mesure l'évangile de Marc. Et après, ils ont fait les actes des apôtres. Et au début, ils se disaient, il va y avoir personne. Et bien, à chaque fois, c'était plein. Et les gens répondaient à cette demande de lire la parole de Dieu ensemble. Et peut-être que c'est une idée pour notre Église. Si plusieurs d'entre nous invitaient des amis, de la famille, des collègues, et puis disent simplement, bon, on va lire l'Évangile. On prie quelques instants, et puis les uns après les autres, on va lire la parole de Dieu. On va pas la commenter, on va pas commencer à faire une exégèse, etc., etc. Simplement, on lit la parole, et peut-être après, on dit, ben, ça m'a parlé. Ça me parle plus. Ça, qu'est-ce que ça me dit plus particulièrement? Et à ce niveau-là, vraiment, je crois qu'il y a quelque chose à découvrir. C'est pas la première fois. Une fois, on avait lu des psaumes, psalmodié des psaumes dans une église catholique à Lille. Je ne sais plus l'occasion. Mais là aussi, je trouvais qu'il y avait une puissance dans le fait de lire ensemble la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est pour l'avenir. Tout à l'heure, Jean-Luc disait que quand on se prépare à faire des projets, ben, il faut s'attendre à avoir des attaques. Donc, je vais vous dire déjà, j'ai eu à cœur d'organiser avec ma sœur Rosemary et une équipe qui vient de Longwy, donc à 350 km d'ici, une soirée de louanges pour le 6 juin. Et au début, on était en équipe de responsables et puis on a donné deux dates, le 6 et le 20. Et j'ai transmis ces dates à ma frangine pour qu'elle voie avec ses amis. Et la plupart étaient d'accord pour le 20 et avaient posé leur congé pour le 20. Et 15 jours après, ma brave équipe me dit, faudrait mieux que ce soit le 6 parce que le 27, il y a Anne Griffy, ça va faire beaucoup. Je dis, je vais rappeler ma sœur et je vais voir avec elle si c'est possible ou pas. Tout le monde avait ses congés, il y avait des étudiants, donc... Voilà, puis je lui dis, bah, ok, c'est arrangé. Alors, pour sa part, Rosemary, son hôpital est racheté par un hôpital de Luxembourg et elle ne savait pas si elle allait être congédiée, changer de service ou quoi que ce soit. Donc, je sais que pour plusieurs d'entre eux, c'est encore un point d'interrogation pour qu'ils viennent. Ils ont très à cœur de venir. Je ne sais pas encore combien, Annette, donc je ne peux pas faire d'appel, mais j'ai envie d'en faire un, de vous demander d'en faire un sujet de prière, parce qu'on avait reçu que des soirées de louanges seraient quelque chose d'important pour notre Église, source de vie. Prendre du temps sans autre engagement, sans autre projet que de louer Jésus, que de louer le Seigneur, l'Esprit, le Père. Et je me dis, il y a là déjà quand même un certain nombre de petites attaques bizarres, donc qu'on va essayer de gérer. Hein. Je vous demanderai ceux qui pourront, si c'est nécessaire, d'accueillir des personnes. Donc, j'en sais rien. 7 maximum, j'ai dit à ma frangine. Donc, nous, on va essayer d'en accueillir 3 ou 4, et puis après, on verra, on va voir. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est le premier week-end de décembre. Là aussi, on va organiser, dans le cadre de Sources de Vie, avec l'aide d'autres églises, une conférence sur les abus. Donc beaucoup ici savent que je me forme à ce niveau-là en Suisse. Et donc la directrice de l'école va venir, et elle va venir avec une équipe de prions. Et malheureusement, j'ai l'impression d'avoir tout apporté au niveau de l'organisation. Alors, j'entends de plus en plus, ça va faire du bien aux églises. Il y a des gens qui en ont besoin, qui traînent avec ce problème, qui sont dans l'église depuis des années et des années, et qui ont besoin de ça. Mais je sais aussi que, vu l'impact, il y aura des combats. Donc... J'espère que ma santé tiendra le coup, parce qu'elle n'est pas toujours au meilleur, et puis que toutes les circonstances, peu à peu, vont s'aplanir. Donc la semaine prochaine, lundi, je vais à la communauté de Bouvines pour voir les questions précises, mais j'ai une grosse question, et je vous demande de prier pour ça. Je ne sais pas quels vont être les frais de la conférence. Donc c'est une grosse question, parce que je n'arrive pas pour l'instant à chiffrer. Et je n'arrive surtout pas à chiffrer combien de personnes seront là, et donc par conséquent, combien je dois demander de participation. Donc pour moi, toutes ces inconnues, je devrais sortir le tract dans les 2 semaines qui viennent, il faut que je le fasse, et qu'après on l'envoie à tous nos réseaux, donc je l'envoie au réseau catholique, au groupe de prière de la région, catho, aussi aux protestants. Après, inviter de manière personnelle, c'est aussi ce qui compte. Mais voilà, mon inconnu, c'est de me dire, est-ce qu'au pif, hein, Christophe m'a dit, t'as qu'à prier. Je dis oui, merci. Merci Christophe, tu es bien gentil. J'aimerais que vous priez aussi, parce que je sais pas trop si je dois demander 20, 30, 40, 50, 60 euros. J'ai aucune idée. Parce que si on est 50, mais si on est 100, et puis le reste, de toute façon, on donnera les bénéfices à ceux qui viennent nous aider, ou à leur école. L'école a maintenant une association pour aider les personnes à venir se former. Où on garderait, s'il y avait vraiment un bénéfice, on garderait pour aider des gens qui, ici sur le Nord, aimeraient aller se former. Alors je vais vous dire mon dernier challenge. Au début, je disais, j'aimerais que l'an prochain, 5 personnes du Nord aillent se former, cathos, protestants, etc. 5 personnes. Et j'ai osé monter jusque 10. Et je vais vous dire que je veux y croire, que 10 personnes vont aller se former pour guérir eux-mêmes s'ils ont été abusés, hommes et femmes, et il y en a. Actuellement, je n'accompagne presque que des hommes abusés. Et après, voir la question de... Oui, moi, j'aimerais au moins 8-10 personnes et de former vraiment une équipe. Et là, ça dépasserait largement source de vie, c'est clair, mais il y a tellement de besoins. Un homme m'a dit, je me suis convertie à 20 ans. J'ai été abusée, c'est revenu progressivement après ma conversion. J'en ai 53. J'ai fait des tas d'églises, j'en ai parlé à des pasteurs. J'ai essayé de voir à trouver des réponses. Et la seule chose qu'on m'a dit, prie, pardonne. Et la foi, prie, pardonne. Surtout, pardonne. Pardonne quoi, on ne sait pas, à qui et comment. Voilà, 33 ans à chercher. Et par hasard, il est tombé, on lui a transmis mon truc, et on commence à faire un travail dans les profondeurs, et je suis assez émerveillée, vraiment émerveillée de ce qui se passe. Avec d'autres, c'est plus compliqué, avec d'autres, c'est même impossible, parce que les gens sont pas prêts, parce qu'il y a des circonstances. Mais il y a un responsable de prière catholique, d'un groupe de prière catholique, qui m'a dit, moi je fais partie d'un groupe et je l'anime depuis plus de 20 ans. Et je vois régulièrement dans des églises des gens catholiques. Et je sais que beaucoup souffrent de blessures du passé et d'abus dont ils n'ont jamais pu parler et qui les traumatisent encore aujourd'hui, les empêchent d'avoir une vie épanouie au niveau affectif, familial, sexuel, spirituel. Comment avoir une bonne image du Père, de Dieu le Père, quand c'est le Père ou quelqu'un en position d'autorité qui a abusé. Donc voilà, je vous donne tout ça en vrac et en détail. Portez-le vraiment sur votre cœur, autant le concert de louanges que le fait peut-être d'inviter des amis et de lire un évangile, que la troisième chose, de porter la conférence qui sera un gros morceau. Voilà, je le souhaite.
Voilà. Alors, ce que je propose, dans ce temps qui reste, on va se lever. D'accord ? On se lève ? Ok ? Et alors, je reviens en arrière un petit peu, on va procéder dans l'ordre des choses. Allez, on prend Ésaïe 60. D'accord ? On prend Ésaïe 60 et ensemble... Oui, Bernard ! Oh, Bernard ! Oui, Bernard ! Oula ! Vas-y, Bernard ! Je te laisse volontiers la parole.
Merci. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Francis Frangipane. Francis Frangipane, voilà. Donc Francis Frangipane a écrit plusieurs ouvrages, et notamment un ouvrage qui s'appelle « Au jour de sa présence ».« Au jour de sa présence ». Et il explique que dans le début de sa vie chrétienne, Dieu lui a donné une vision qui a été, on peut dire, sur laquelle a reposé plus ou moins toute sa perception de son appel, de son ministère et de sa pensée par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et dans cette vision, il se voyait un peu sur une colline ou un peu en retrait, comme ça sur une montagne. Et en bas, il y avait une ville et c'était vraiment sombre. Il y avait des ténèbres. les ténèbres. Les gens étaient vraiment dans une atmosphère de ténèbres. Et il était avec d'autres personnes, ce sont d'autres chrétiens, et il dit « notre visage rayonnait ». Notre visage rayonnait, et les gens sont sortis et sont venus vers nous parce qu'ils ont vu la lumière, justement, sur nos visages. Ils ont été attirés par cette lumière. Et quand il s'est réveillé le lendemain matin, il a pris sa Bible, et il a dit « Seigneur, cette vision et tout ça ». Et le Seigneur, il lui a dit « Seigneur, parle-moi au travers de ta parole ». Il a ouvert la Bible et il est tombé sur ce passage d'Ésaïe 60. Voilà. Alors donc ça a été quelque chose qui a été vraiment qui lui a permis de qui lui a donné un, on peut dire, une impulsion par rapport à toute sa propre vie chrétienne, et il pense que c'est vraiment le projet de Dieu pour son Église dans les derniers temps, avant le retour de Christ, que Dieu va faire une œuvre pour vraiment que la gloire de Christ puisse se manifester dans la vie des chrétiens, et par ce rayonnement, bien beaucoup viendront au Seigneur.
Merci beaucoup. Là, il fallait que je te passe la parole pour ça, hein, absolument, vraiment. Excuse-moi d'avoir... Oui, oui. Est-ce qu'on se lève et on reçoit cette promesse d'abord, avant de porter peut-être en seconde partie là ce que Colette a partagé, mais qu'on reçoive cette promesse d'Ésaïe 60. Dans la joie. On la reçoit dans la joie. On reçoit dans la joie. Vous avez envie de rayonner? Oui. Oui, oui,
bien sûr.
Quand j'aurai retrouvé ma Bible, je sais plus. Ah, elle est là, oui. Ouais. Vous savez, s'il y a une assemblée de visages rayonnants, on sera vite rempli, hein. Et oui, oui. Lève-toi. Brille. Car ta lumière paraît. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Seigneur, que la révélation de la croix vienne aussi, et la révélation de contenu dans ce passage, dans ce projet des derniers temps, vienne aussi. Seigneur, que tu nous donnes à chacun l'intelligence pour contrer toute tentative de l'ennemi d'atténuer ce rayonnement, d'arrêter ce rayonnement, le souci, la crainte, la honte, un péché quelconque qui n'est pas traité, une blessure qui n'est pas traitée. Merci Seigneur, c'est le temps de se nettoyer pour laisser passer la lumière. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui te dit « ta faiblesse te met hors course », mais le Seigneur te dit « ta faiblesse, c'est ma chance ». Et si tu n'étais pas un vase fêlé, la lumière ne pourrait pas passer. Ta lumière passe dans ta faiblesse, c'est ma chance. Reçois maintenant, recevons ensemble cette lumière pour briller de toi. Amen. Amen. Ouais. Renouvelle la vision de la puissance d'une vie livré, crucifié. Et j'ai envie qu'on déclare ensemble aussi, comme je l'ai fait à Réveil l'amour, de déclarer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui qui vit en moi. Est-ce qu'on le déclare ensemble? Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Amen.